There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Les Rescapés, le podcast qui vous parle de ces gens qui ont vécu une déflagration dans leur vie, qui a signé la fin de leur vie d'avant et conditionné leur destin. Nos témoins sont des survivants. Ils auraient pu sombrer, mais la fracture qu'ils ont vécue a parfois donné du sens à leur vie ou révélé une partie d'eux-mêmes qui serait certainement restée endormie. Aussi difficile que fut l'épreuve, ils sont parvenus à voir la vie d'un œil neuf. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après ? Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort ? N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
Avant, j'étais comme coupée en deux. Une partie de moi était complètement heureuse. L'autre partie était complètement éteinte. Et depuis le 26 novembre 2018, je suis une rescapée. Alors, nous sommes en septembre 2018. Je suis enseignante et j'arrive dans une nouvelle école avec des collègues très sympathiques. Je prends mes marques. À la fois, c'est quelque chose de nouveau pour moi puisque je ne connais pas du tout l'école. En même temps, autour de moi, pour mes enfants, il y a aussi un petit peu de nouveauté puisque mon fils aîné rentre au lycée, il a 15 ans. Mon fils un peu plus jeune a 13 ans, il continue sa vie tranquille au collège. Et mon conjoint, avec qui je suis depuis plus de 25 ans, toujours à mes côtés, à m'encourager. J'ai une vie professionnelle particulière parce que j'ai commencé dans les ressources humaines, en fait. J'ai travaillé 6 ans dans les ressources humaines. Je me plaisais à peu près, on va dire. Et puis un jour, vraiment, quasiment du jour au lendemain, j'ai l'impression que j'ai plus ma place dans ce métier, que ce métier représente pas l'idéal que j'avais imaginé. Donc, je décide de tout plaquer, de passer le concours de professeur des écoles pendant que je suis en congé maternité. Et donc, en 2006, je deviens professeur des écoles. Quand je deviens professeur des écoles, je sens tout de suite que je suis à ma place. D'abord parce que je suis avec les enfants et que c'est quelque chose qui m'anime encore aujourd'hui, qui est vraiment important pour moi, le fait de transmettre, de laisser quelque chose. Et puis enfin, au bout de 6 ans, je me sens vraiment utile à quelque chose, en fait. Je peux dire que mon travail est utile, et ça, pour moi, c'était fondamental. Alors, je suis enfant unique. J'ai grandi avec mon papa, ma maman. Une enfance très heureuse. On va dire jusqu'à 10-12 ans, je me sens vraiment heureuse dans ma vie. J'ai une très grande famille autour de moi, on fait beaucoup de fêtes. Tous mes souvenirs sont très festifs, malgré que j'ai pas de frères et sœurs, j'ai beaucoup de cousins et de cousines, donc c'est vraiment toujours très joyeux. Et puis, quand j'ai 10-12 ans, ma maman, au niveau de son parcours professionnel, en fait, se fait licencier. Et la vie à la maison va un petit peu changer parce que du coup, elle va avoir une période de dépression assez intense qui va être assez difficile à vivre pour moi, en fait. De la voir malheureuse comme ça, ça dure un certain temps. Enfin, ça se prolonge même sur plusieurs années. J'ai pas un souvenir incroyable de mon adolescence. Il y a eu, on va dire, 8-9 années assez difficiles. Et puis ensuite, je me lance dans des études secondaires. Voilà, la vie avance et tout va mieux. Mon mari, on se rencontre en fait pendant le mariage de ma meilleure amie. Et lui, c'est un cousin du marié que je connais également. Pour nous deux, c'est un peu... je ne sais pas si on peut dire coup de foudre, mais en tout cas, je pense qu'à ce moment-là, on se reconnaît. Et puis, on vit ensemble assez vite, au bout d'un an à peu près. On décide de ne pas avoir des enfants tout de suite parce qu'on a envie de profiter de la vie, de voyager, de faire plein de choses. Donc, on a nos enfants assez tard, puisque j'ai 30 ans quand j'ai mon premier enfant. À ce moment-là de ma vie, je crois que je peux dire que je me sens heureuse, ou consciemment, je me sens heureuse. Je comprendrai plus tard que pas à 100%. Mais en tout cas, j'ai la famille dont j'ai toujours rêvé. J'ai un métier qui me plaît. On vit confortablement. Je suis en bonne santé. Tout va bien. J'ai l'impression que tout va bien. En 2018, je pense que je suis d'une nature optimiste. Ça, franchement, je suis née comme ça. Peu de choses me posent problème dans la vie. Je trouve toujours des solutions à tout. En revanche, il y a quand même une partie de moi qui est un peu dans l'ombre, en fait. C'est comme si la moitié de moi était mise en lumière et l'autre moitié à l'ombre, vraiment. À ce moment-là, oui, je ressens que je suis pas entière. Ou enfin, je sais que je suis entière, mais que je suis pas moi-même à 100%, en fait. Mais pour autant, je suis pas gênée par ça, en fait. D'abord parce que j'ai toujours appris à faire avec ce que j'ai, de manière assez naturelle. Donc, c'est comme ça, c'est pas... voilà. Mais je sens qu'il pourrait y avoir une meilleure version de moi-même, en fait. Chaque année, depuis quelques années, pour les vacances du mois de novembre, on part tous les deux avec mon conjoint et en général, on va faire de la randonnée. Donc cette année-là, on décide de partir 3-4 jours en Corse et on se lance le challenge, enfin je me lance le challenge plutôt, de faire la moitié du Cap Corse et donc ça représente une randonnée à peu près de 8 heures de marche. Donc on se lance ce jour-là. Au début, tout va très bien. Enfin, le paysage est magnifique. Il fait beau, on croise personne. C'est complètement idyllique. On se baigne, voilà. Et puis, sur le chemin du retour, les deux dernières heures sont quasi insurmontables pour moi. Alors, déjà, c'est pas tout à fait plat. Donc, forcément, ça, voilà, je suis très, très vite essoufflée. La dernière heure, je suis quasiment, enfin, au ralenti. Je n'arrive plus à avancer. Je suis essoufflée, mais au point où on entend vraiment que j'inspire, j'expire, c'est presque douloureux. Alors, mon conjoint, qui lui est très, très sportif et qui adore la compétition, forcément, essaye de m'encourager. Il me dit, mais attends, on y est presque, c'est normal. On va y arriver, on va le faire. Et oui, on le fait. On finit cette randonnée. On enchaîne même avec 2 jours de plus de randonnée. Et puis ensuite, on revient. Et une semaine après ces vacances, je commence à avoir des maux de tête très douloureux. Alors, ça m'arrive quelquefois, comme tout le monde, d'avoir mal à la tête. En général, je prends un Doliprane, ça s'arrête, on n'en parle plus. Sauf que là, je prends un Doliprane, effectivement, ça s'arrête. Sauf qu'au bout de 6 heures, les maux de tête sont toujours là. Je reprends un Doliprane, ça s'arrête, etc. Et en fait, pendant une semaine, les maux de tête ne vont jamais s'interrompre, à part quand je prends le Doliprane. Ça m'inquiète parce que je sens... je suis déjà un petit peu à l'écoute de mon corps, on va dire, et je sens... que, en tout cas, je sens que c'est pas normal. C'est pas le fonctionnement normal de mon corps. Alors, le circuit classique, c'est effectivement de consulter des médecins, sauf que je suis pas très classique dans ce domaine-là. Donc, la première chose que je fais, c'est aller voir une bioénergéticienne conseillée par ma naturopathe. Il faut savoir que depuis que je suis adolescente, je suis quasiment pas malade du tout. Donc vraiment, je vais voir les médecins, moi, juste pour faire les certificats de sport. J'arrive chez la bioénergéticienne qui commence à faire un soin énergétique. Et très rapidement, elle me dit, avec des mots assez doux hein, quand même, mais je sens une inquiétude. Elle est inquiète et surtout, elle me dit, je veux que vous alliez voir un médecin. Donc je décide d'abord d'aller voir mon médecin de famille, qui me connaît depuis que j'ai 10 ans, qui n'est pas juste à côté de chez moi, mais j'ai confiance en lui. Donc, je vais le voir. Je lui explique les douleurs que j'ai à la tête, etc. Sauf que, en fait, un an avant, on a détecté que j'avais de l'arthrose précoce au niveau du genou. Et du coup, lui, sa première idée, c'est de me faire faire une radio au niveau des cervicales, parce qu'il pense que je peux avoir de l'arthrose et que c'est ce qui peut provoquer mes maux de tête. Et le fait est qu'on fait des radios et que j'ai de l'arthrose au niveau des cervicales. Donc, il en déduit que les maux de tête viennent de là ou peut-être d'un stress. Il décide de mettre sous anti-inflammatoire. Et du coup, les anti-inflammatoires ont exactement le même effet que le Doliprane, c'est-à-dire que les douleurs s'arrêtent et elles reprennent dès que les anti-inflammatoires ne font plus d'effet. À ce moment-là, je recontacte ma bioénergéticienne qui, elle, me dit « Non, 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 c'est pas ça ». il faut que tu creuses, va voir un autre médecin, il y a quelque chose qui va pas, c'est autre chose. Donc, je vais voir un deuxième médecin qui est la médecin qui s'occupe de mes enfants, donc que je connais bien aussi. Je lui explique que j'ai déjà vu un médecin, je lui explique mes symptômes, je lui demande une prise de sang et elle me dit « Écoutez, on a fait une prise de sang il y a un an, il n'y a aucune raison qu'on vous en fasse une. Et puis surtout, bah voilà, vous êtes quand même en forme, vous allez travailler, continuez les anti-inflammatoires et c'est sûrement l'arthrose au niveau des cervicales. » Alors, quand ce deuxième médecin me dit « il n'y a rien d'inquiétant », en fait, je suis en colère parce que je sens au fond de moi que non, qu'il y a quelque chose de vraiment inquiétant. Et en même temps, ce soir-là, je m'en souviens très bien, je décide de jeter l'éponge. J'ai des copines qui viennent à la maison me voir et je leur dis « non, moi, je laisse tomber, je ne vais plus voir de médecin, ça ne sert à rien ». Alors, les douleurs sont toujours là. Et surtout, au bout de 3 semaines, en plus des douleurs, j'ai une fatigue intense qui commence à s'installer. Et alors, un dimanche matin, je me réveille et c'est impossible pour moi de me lever de mon lit, en fait. Dès que je suis debout, je ne tiens pas debout. C'est impossible, donc je passe ma matinée au lit. Et là, en fait, c'est mon conjoint qui se met vraiment en colère et qui décide d'appeler SOS Médecin en me disant « Tu ne peux pas continuer comme ça, ce n'est pas possible ». Là, ça devient trop grave. Et donc, un médecin de SOS Médecins se déplace à la maison, puisque moi, je ne peux vraiment pas bouger. Il me dit, écoutez, pour être sûr, moi, je vais vous faire une prise de sang. Le lendemain matin, j'essaye, tant bien que mal, avec mon conjoint, d'aller au laboratoire. Je fais ma prise de sang. Je ne tiens toujours pas debout, mais bon, ça se passe. Je rentre chez moi. Et en fait, comme je ne peux toujours pas me déplacer, je demande à une amie d'aller récupérer mes examens. Et puis quand elle revient, elle me dit « Écoute, tous tes examens, on ne m'a pas tout donné, mais c'est sûrement parce que tout n'est pas prêt, mais en tout cas, voilà, tu as déjà au moins 2 ou 3 feuilles. » Donc on s'installe toutes les deux sur le canapé, on regarde cette prise de sang, on check sur Internet tout ce qu'il y a. Il n'y a rien de troublant, en fait, dans la prise de sang. Donc l'espace de 15 minutes, je suis rassurée et je me dis « Bon, bah, je ne sais pas, c'est peut-être moi, finalement. » Bon voilà, mon ami s'en va et à ce moment-là, mon téléphone portable sonne. Je m'en souviendrai toute ma vie. Nous sommes le 26 novembre 2018. Il est 19h30 à peu près. La deuxième médecin que j'ai vue, en fait, me téléphone sur mon portable. Je ne l'ai pas au téléphone parce que je ne décroche pas tout de suite. Donc en fait, j'écoute son message et quand j'écoute son message, je sais qu'il y a quelque chose de grave puisqu'elle me dit « Je vous attends à mon cabinet, quelle que soit l'heure, mais surtout, ne venez pas seule. » Donc là, ça y est, on y est en fait. Je suis vraiment au pied du mur, je sais qu'on va m'annoncer quelque chose de grave. Mon conjoint est à la maison, donc je lui explique. On part tous les deux chez le médecin qui nous reçoit tout de suite dès qu'on arrive. Elle me tend une prise de sang, donc en fait les résultats qu'il me manquait, qui lui avaient été envoyés par fax. Elle cache avec sa main en fait les chiffres, mais elle me dit « bah voilà, dans votre prise de sang, il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez une leucémie. Est-ce que vous savez ce que c'est ?» Quand elle m'annonce que j'ai probablement une leucémie, la seule chose que je sais, c'est que c'est un cancer du sang. Je le sais, mais comme tout le monde le sait, parce que j'ai déjà vu ça dans un film ou dans une émission, je sais que c'est un cancer du sang. Sur le coup, je ne suis pas inquiète, je suis soulagée. Soulagée que ça y est, on me croit, on sait que j'ai quelque chose, on a à peu près trouvé ce que j'ai. Ce qui est plus inquiétant, c'est que du coup, elle nous regarde et elle me dit « Vous rentrez chez vous maintenant, vous faites une valise ». Et vous partez tout de suite aux urgences à Versailles, ils vous attendent, je les ai appelés. Là, c'est extrêmement brutal parce que pour le peu que je sache, les gens autour de moi qui ont déjà eu un cancer quelconque, quand on leur annonce ça, on ne leur dit pas « on vous attend aux urgences, venez tout de suite ». On a quand même le temps d'accepter les étapes qui vont se présenter. Et moi, je prends ça vraiment comme un coup de massue parce que du coup, je dois rentrer chez moi, faire une valise. Je ne sais même pas ce que je dois mettre dedans puisque je ne sais même pas pourquoi on m'attend, pour combien de temps, ce que je vais faire. Donc, je mets vaguement un pyjama. Et surtout, j'ai mes 2 enfants qui sont à la maison, qui sont inquiets depuis tout à l'heure parce qu'on est parti chez le médecin et à qui je vais devoir dire « on part aux urgences ». Sans pouvoir leur dire « j'ai une leucémie ». On ne peut pas dire ça en 5 minutes à ses enfants. C'est impossible. Donc, on décide de leur expliquer que les médecins veulent faire un petit peu plus d'examens. Et donc, on part tous les deux aux urgences à Versailles. Quand on me diagnostique cette leucémie, j'ai 44 ans. C'est jeune, hein. Je dis c'est jeune, mais en réalité, je pense pas à moi, à mon âge. Je pense surtout que mes enfants sont jeunes. C'est surtout ça, en fait, qui va être très difficile pour moi. C'est pas tant tout ce qu'on va m'annoncer, c'est ce que je vais devoir leur annoncer et leur faire subir. Alors, quand on arrive à l'hôpital, là, je bascule dans un autre monde, en fait. On arrive aux urgences, on nous dit qu'on est attendu en hématologie. Et quand on arrive en hématologie, on a devant nous trois infirmières qui sont masquées. Elles demandent à mon conjoint de les suivre. Et donc, quand mon conjoint revient dans la chambre, il a un masque, il a une charlotte, il a des chaussons. Il est plus du tout le même. Tous les gens autour de moi sont masqués. C'est angoissant parce qu'on ne sait pas, on comprend pas en fait. On comprend pas ce qui se passe puisque moi, deux jours avant, j'étais dans ma classe avec des enfants de 7 ans. On est en plein mois de novembre, il y a des microbes qui traînent partout. Et donc, je comprends pas pourquoi d'un coup, on prend autant de précautions avec moi comme si ma vie en dépendait. En l'occurrence, ma vie en dépendait à ce moment-là. Alors, au début, l'hématologue me dit qu'il y a 90% de chances que ce soit une leucémie. Il essaye de me réexpliquer, donc il me dit voilà, une leucémie, c'est un cancer du sang. Donc du coup, il m'explique que je vais rester dans cette chambre enfermée pendant minimum 5 semaines et qu'on va me faire des examens complémentaires pour voir de quel type de leucémie il s'agit, puisqu'il y a des leucémies qui se soignent avec des chimiothérapies, d'autres qui se soignent avec une greffe. Enfin voilà, au début, il m'explique juste qu'on va faire des examens supplémentaires pour pouvoir voir quel sera le protocole. Alors, je comprends tout de suite que du coup, je vais rester là à minima 5 semaines, que je vais être enfermée dans cette chambre de 15 mètres carrés, que je ne verrai plus le sourire de personne. Je comprends aussi que plus personne ne pourra me toucher, ni même me faire un bisou, ni même quoi que ce soit d'autre. Que les gens qui vont venir me voir vont devoir prendre des précautions incroyables. En revanche, mon conjoint, lui, il est complètement dans le déni. Il comprend pas du tout. C'est comme s'il est pas là, en fait. Il est là, mais il est pas là. Il entend ce que l'hématologue lui dit, mais il lui demande quand même si on va pouvoir aller skier au mois de février. Il se renseigne pour la télévision, mais en fait, il prend un abonnement d'une semaine parce qu'il dit mais peut-être dans une semaine, tu seras sorti. Et donc, l'hématologue, je pense, a l'habitude de ce genre de déni, donc qui essaye de lui expliquer gentiment que non, qu'il y a plus de programme, en fait, pour nous. En fait, en l'espace de quelques minutes, le moment où le médecin diagnostique ça, ensuite l'arrivée à l'hôpital, l'hématologue qui me dit tout ce qui va se passer, la vie, elle bascule très vite et on n'a pas vraiment le temps de s'adapter, en fait, puisque dès le lendemain, les examens commencent. Il y a à la fois donc ce soulagement de se dire « je suis prise en charge, donc ils vont me guérir », et puis à la fois forcément cette peur qui est attachée à ce mot « cancer ». Très très vite, au bout de 2 jours, je comprends que malheureusement, ma leucémie ne fait pas partie des leucémies qui sont faciles à soigner. Donc les médecins me font signer un protocole de recherche dont le titre est vraiment marquant puisque ça dit « protocole de recherche pour une survie à plus de 5 ans ». Enfin, rien que le mot « survie », déjà, ça plante le décor. Là, je prends tout de suite conscience que je peux mourir. Que je peux mourir tous les jours, puisque comme je suis en aplasie, en dehors de la leucémie, n'importe quel virus qui serait infiltré dans la chambre pourrait me tuer. Et du coup, c'est très très court pour que le cerveau puisse s'adapter et comprendre en fait ce qui se passe. La chose qui a vraiment été la plus difficile pour moi quand j'ai appris que j'ai eu cette leucémie, c'était pas tellement ce qui allait m'arriver. C'était donc premièrement mes enfants, comment expliquer ça à mes enfants. Et ma deuxième angoisse très importante, c'est que j'ai perdu mon papa 3 ans auparavant. Ma maman était psychologiquement très fragile. Ça a été très, très, très difficile. Elle était complètement dévastée et incapable de faire quoi que ce soit pendant 1 an. Ça faisait quelques mois qu'elle commençait à se remettre du décès de mon papa. Ça faisait quelques mois qu'elle avait déménagé dans un nouvel appartement, qu'elle recommençait à être un peu plus indépendante. Et moi, je devais lui annoncer que sa fille unique était en danger de mort. Donc, le premier soir où je suis arrivée à l'hôpital, j'ai attendu tard dans la soirée pour l'appeler. Et en fait, j'ai fait exactement comme avec mes enfants. Je lui ai dit, on pense que c'est une leucémie, il faut faire plus d'examens. Donc elle est venue dès le deuxième jour à l'hôpital. Et puis bah là, elle a tout de suite compris, parce que ce que je n'ai pas su moi tout de suite, c'est que en fait les médecins accompagnaient aussi mes proches et expliquaient en fait à mes amis ou à certaines personnes de ma famille que le risque de me perdre était assez important. Donc elle a évidemment fini par comprendre que la situation était très grave. Et puis en fait, on a eu cette discussion qu'on n'a jamais eue avant, mais qu'on aurait dû avoir depuis des années en fait. Et à partir du moment où, quand j'étais adolescente, ma maman a un peu perdu pied et n'était plus vraiment ma maman, c'était quand même plutôt moi qui était plus sa maman que l'inverse. Je lui explique, j'ai jamais réussi jusqu'à ce moment-là à lui dire « Prends-toi en main, j'ai besoin de toi, il faut que tu sois solide, il faut… » Enfin voilà, tous ces mots n'étaient jamais sortis. Et puis ce jour-là, quand elle est venue à l'hôpital, je n'ai pas eu d'autre choix que de lui dire que j'avais besoin qu'elle soit là à mes côtés, mais qu'elle soit forte. Et pour moi, ça faisait des années qu'elle n'avait pas été forte. Donc je sais que sur le coup, ce que je lui ai dit a été assez virulent pour elle à entendre, parce que c'est pas facile hein, d'entendre que sa fille pense qu'elle n'a pas été la maman qu'elle attendait en fait. Et puis bah, finalement, elle s'est complètement transformée. Et elle est devenue, pour la première fois depuis des années, la maman dont je rêvais en fait. Et ça serait jamais arrivé sans cette maladie. Jamais j'aurais osé, même plus tard, lui dire ce que je ressentais. Et moi, j'ai toujours eu l'impression que cette maladie n'était pas arrivée par hasard et que j'étais enfin au tournant de ma vie, en fait. C'est-à-dire que, enfin, la part d'ombre que j'avais l'impression d'avoir, il me semblait que là, c'était le moment où cette part d'ombre allait pouvoir se revêtir de lumière. J'étais vraiment convaincue que ça m'était envoyé par le destin, en fait. Et que c'était à partir de ce moment-là qu'il fallait vraiment que je change quelque chose en moi, dans ma vie. En fait, cette impression que quelque chose de fondamental était en train de se jouer, mais pas quelque chose pour ma vie ou pour la mort, ou vraiment un changement de vie, ça m'est apparu dans les premiers jours de mon hospitalisation, en fait. Et je me suis dit, bah, ça y est, j'y suis. C'est difficile hein, d'expliquer ça avec des mots. Je ne sais pas s'il y a des mots qui peuvent exprimer ça, mais c'était vraiment cette idée d'être un carrefour, peut-être, de ma vie, et de me dire, maintenant, il va falloir faire les bons choix. Mais pour faire les bons choix, il va falloir enlever des choses qu'il y avait dans ta façon de faire et les remplacer par d'autres choses. Alors, c'est là où le processus est beaucoup plus long. C'est que je comprends que je suis à un carrefour de ma vie, mais au début, je ne sais pas du tout quoi faire de ces informations. Alors, à la fois, je suis quand même toujours en danger de mort tous les jours, et à la fois, je sais que je dois faire des choses, je ne sais pas encore tout à fait quoi. Quand on est à l'hôpital, enfermé dans une chambre de 15 mètres carrés avec pas grand-chose à faire, et ben justement, ça laisse le temps de faire une vraie introspection, en fait. De faire un peu comme deux colonnes, ce qui va dans ma vie, ce qui va pas, qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que je changerais si j'avais tous les pouvoirs magiques du monde. Et puis, bah, au fur et à mesure, j'ai eu du temps hein, quand même pour réfléchir à tout ça. Ça m'a permis de voir un petit peu tout ce que j'allais devoir modifier. Pendant donc la première semaine, je fais des examens, je commence la chimiothérapie au bout d'une semaine. Cette chimiothérapie est très très intensive puisqu'elle coule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans mes veines. Donc pendant 7 jours, en fait, là je suis plus que l'ombre de moi-même. Là je peux réfléchir à rien du tout, j'ai quasiment aucun souvenir de ces 7 jours d'ailleurs. Je suis alitée en permanence, je peux rien faire toute seule, je peux pas me déplacer, je mange pas... Et puis au bout de 7 jours, la chimiothérapie s'arrête. Les médecins refont un examen. Et curieusement, en fait, je vois l'interne arriver dans ma chambre avec un sourire incroyable. Et elle me dit « on a réussi ». Et moi, je me dis « on a réussi, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et donc là, elle m'explique qu'en fait, j'avais plus de 80% de cellules cancéreuses dans le sang. Et qu'avec cette première chimiothérapie, ils ont réussi à rabaisser ce taux à 4%. Ce que eux voulaient pour pouvoir faire la suite du programme. jour où le médecin me parle de greffe de moelle osseuse, moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il me dit que comme je suis fille unique, que mes enfants sont trop jeunes, que ma maman est trop vieille, on va devoir chercher un donneur sur le registre international. Et moi, j'y connais tellement rien que je crois que quelqu'un va devoir mourir pour me sauver, en fait. Et donc, il m'explique que il y a un registre international avec plusieurs millions de donneurs, mais que pour trouver quelqu'un qui est compatible avec moi, ça va être extrêmement difficile parce que c'est globalement, on va dire, une chance sur un million de trouver quelqu'un qui est compatible. Alors moi, je suis très mauvaise en stats, hein. Ça fait toujours rire mon conjoint, mais moi, je me dis juste que s'il y a une chance, qu'elle soit sur un million ou sur 50 ou sur peu importe, il y a une chance. Donc elle est pour moi. Alors c'est vrai que sur le coup, je suis pas très inquiète en fait. Je comprends que c'est inquiétant de par l'attitude des gens autour de moi. Après, je reviens à l'hôpital début janvier et là, les médecins m'annoncent tout de suite qu'ils ont trouvé non pas un donneur, mais deux donneurs compatibles. C'est exceptionnel. J'ai l'image en tête à l'hôpital de tout le monde qui est réjoui autour de moi, de tout le monde qui sourit et de moi qui suis un peu au milieu de tout ça et qui me dit « ben, moi j'y croyais en fait ». Donc c'était pas une surprise incroyable pour moi, mais ça l'était pour tous les gens qui étaient autour, y compris l'interne qui me dit « vous vous rendez compte, on va pouvoir choisir lequel est le plus compatible et puis s'il y en a un qui a un problème de santé, on pourra prendre l'autre ». Enfin voilà, pour eux c'est vraiment, c'est chouette. Moi, je suis convaincue dès le début que je serai guérie. Je peux pas expliquer ce que c'est cette petite voix qui me dit « c'est juste une expérience qui va t'apporter des choses ». En fait, pour moi, c'est ça, à ce moment-là et tout le temps. Alors forcément, oui, ça génère beaucoup moins de stress que d'autres personnes. Et d'ailleurs, certains amis m'ont même dit « mais quand on venait de voir à l'hôpital, c'était toi qui nous rassurais, en fait ». Donc, c'est pas forcément une façon logique de voir les choses. Ça, je l'entends bien. Mais après, moi, je suis pas d'un naturel déjà stressé, trop. Et surtout, je suis très optimiste. Donc, ça m'a pas quitté à ce moment-là. Et effectivement, je pense que ça a été une vraie force, pour le coup. Et puis, très vite, je dirais au bout d'un mois, on m'annonce que ça y est, le donneur a été sélectionné et que donc, je vais pouvoir être greffée en mars 2019. Alors, au début, je demande au moins si c'est un homme, si c'est une femme. Je cherche à avoir quelques petits renseignements. L'hématologue, lui, donne absolument aucune information. Le 19 mars 2019, je suis greffée. Donc là, pour le coup, c'est pareil. On pourrait imaginer que c'est une opération, mais pas du tout, hein. Ça se passe un peu comme une transfusion de sang, en fait. Donc, il y a une poche qui arrive. Et puis, mon infirmière de greffe, ce jour-là, en fait, m'a montré la poche, puisqu'elle sait qu'en général, on aime bien prendre une photo, avoir un souvenir, quelque chose. Et donc, c'est comme ça que j'ai grappillé quelques informations et j'ai vu sur cette poche la date d'anniversaire de mon donneur. J'ai vu que c'était un homme et j'ai vu qu'il avait été prélevé près de Manchester, au Royaume-Uni. Ça permet juste pas de mettre un visage, parce que je peux pas imaginer comment il est, mais au moins, ça me permet de me dire que maintenant, c'est un peu comme si j'avais un petit frère. Dans ma tête, en tout cas, il ressemble à quelque chose. Alors après la greffe, je reste 3 semaines et demie à peu près, puisque il y a rarement, contrairement à une greffe d'organes, quand on a une greffe de moelle osseuse, il y a rarement un rejet. Ces journées d'hospitalisation, elles sont longues et en même temps, elles passent parfois relativement vite, parce que moi, j'ai la chance, notamment pendant ces 6 semaines de greffe, d'avoir des amis formidables qui se relayent, qui covoiturent. Mais moi, j'ai préféré me dire que, en fait, j'étais dans un cocon, que j'étais voilà, dans mon petit cocon et que là où j'étais, du coup, rien ne pouvait m'arriver, aucun virus ne pouvait franchir la porte. Et ça m'a aidé aussi à accepter le fait d'être enfermée. Le retour à la maison après la greffe, alors le premier mois, c'est extrêmement compliqué parce que d'abord, on est tellement fatigué que moi, par exemple, aller de mon canapé à la cuisine, ça me prenait 3 quarts d'heure hein, à peu près pour pouvoir faire le trajet. Et puis très vite, il y a quelque chose de très compliqué qui s'installe et je pense que tout le monde dans l'après-maladie, en tout cas, peut parler de ça. C'est que très vite, on se sent seul. Alors, je dis pas qu'on est seul, hein. Mais vraiment, c'est ce qu'on ressent parce que du coup, les rendez-vous médicaux s'éloignent. Et puis aussi parce que les gens autour de nous, une fois que la greffe a été faite et qu'on est rentré à la maison, pour la plupart des gens, on est guéri en fait. Tout va bien. Et puis eux, ils ont eu tellement peur pendant 6 mois que la seule chose dont ils ont envie, c'est qu'on soit guéri. Au début, les quelques mois du coup après la greffe, quand je suis à la maison, je suis toujours avec dans ma tête, j'ai été à un tournant de ma vie, il doit se passer quelque chose. D'abord, il y a un événement assez tragique, puisque 2 mois après ma greffe, ma maman meurt dans un accident de voiture. Donc en fait, on a réussi à se dire les choses pendant cette maladie, on a réussi à, entre guillemets, à accomplir ce que moi j'appelle notre mission commune. Mais du coup, ça vient encore rebousculer un petit peu tout ce que j'avais de, comment dire, de fiable autour de moi. Et je continue à me dire, d'accord, il s'est passé ça, maintenant tu vas bien. Je considère que je vais bien. Mais on fait quoi de tout ça alors? Enfin, à quoi ça a servi tout ça? Et puis, les moments d'introspection que j'ai eus, j'ai beaucoup écrit aussi pendant que j'étais à l'hôpital. Ça m'aidait vraiment beaucoup de pouvoir mettre sur le papier ce que je ressentais, ce qui allait, ce qui allait pas. Et puis en fait, une fois de plus, ça a été vraiment en quelques minutes, quelque chose a basculé. J'étais dans mon jardin et j'ai vu, bêtement, hein, j'ai vu un papillon en fait. Alors moi, j'étais très très phobique de tout ce qui vole, y compris des papillons. Et en fait, ce papillon est venu se poser sur moi. Et ce qui était troublant, c'est qu'il était orange. Et orange, c'est la couleur du ruban de notre cancer, en fait, des leucémies. Et quand j'ai vu ce papillon, une fois de plus, j'ai eu l'impression qu'on m'envoyait un signe, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux être, moi. Lui, ce papillon, avant, c'était une pauvre chenille qui rampait comme il pouvait. Il était pas malheureux, elle était pas malheureuse, hein, la chemille. Elle rampait, elle faisait ce qu'elle avait à faire. Mais aujourd'hui, c'est un papillon, il arrive à voler. Il s'est complètement transformé, lui, il a réussi ça. Et c'est ça que je veux. C'est ça que je veux pour moi. Je veux devenir ce papillon. Je reprends toutes les notes, entre guillemets. J'essaye de coucher sur le papier tout ce que j'avais mis de côté sur ce que je n'aimais pas dans ma personnalité, sur ce que j'avais envie de changer. Et puis après, il y a aussi des choses sur lesquelles on ne peut pas travailler, en fait, qui arrivent presque de manière innée après ce genre de traumatisme. C'est qu'à partir du moment où on est survivant, peu importe de quoi on est survivant, en tout cas, à partir du moment où on a touché la mort de si près qu'on se dit « mais là, j'ai une deuxième chance », c'est plus du tout la même intensité de vie, déjà. Et puis, moi, je me dis surtout, il faut que tu arrives à être libre. Je comprends que ma part d'ombre, en fait, que j'avais avant, c'était la partie de moi-même qui était emprisonnée. Mais cette partie d'ombre, elle était emprisonnée pour 2 raisons. Premièrement, la peur, parce qu'on a tous tellement de peur. C'est incroyable, on a peur pour tout. C'est comme si on était formaté pour avoir peur, en fait. Et puis, on a, pour beaucoup d'entre nous quand même, un gros souci avec l'estime de soi, le fait de s'aimer, de se sentir aimé. Et moi, en fait, cette maladie, elle est venue colmater toutes ces blessures que j'avais. C'est-à-dire, toutes les peurs que je pouvais avoir n'existent plus parce que j'ai survécu à ça. Si j'ai survécu à ça, qu'est-ce qui peut me faire peur aujourd'hui ? La seule peur qui reste en moi et qui sera viscérale jusqu'à la fin de ma vie, c'est la peur que j'ai pour mes enfants. Celle-là, je peux pas y faire grand-chose. Mais toutes les peurs que j'avais pour moi, les choses que j'osais pas faire, tout ça n'a plus lieu d'être. Du jour au lendemain, c'est devenu une évidence, en fait, que j'avais plus aucune raison d'avoir peur. Et puis la deuxième, donc comme énormément de personnes, j'avais pas une estime de moi très développée, on va dire. Par exemple, j'étais incapable de dire « je suis fière de moi ». C'est quelque chose que j'aurais jamais pu dire. Mon corps, je le détestais depuis que j'étais ado parce que j'ai eu une opération au niveau d'un genou qui m'a laissé une énorme cicatrice de plus de 20 cm. Donc, à partir de là, moi, j'ai complètement délaissé mon corps. Je me suis jamais trouvée jolie, à la hauteur ou quoi que ce soit de tout ça. Et en fait, pendant ma maladie, ce corps que je... Non pas que je le détestais, hein, mais bon, il était là, il me servait de véhicule, quoi. Voilà, c'est tout, c'était pas plus que ça. Il a supporté tellement de choses, il a fait un tel boulot pour me garder en vie que du coup, il y a une fierté un peu qui... Enfin, c'est pas un peu. J'ai une fierté immense pour lui et je ne peux plus faire comme si c'était juste un véhicule. Je peux enfin dire, et je pouvais pas ça avant, je peux enfin dire je suis fière de moi. Je suis fière de toutes les parties de moi. Je suis fière d'avoir eu le mental qui m'a permis d'avancer sereinement, de ne pas angoisser tout le monde. Voilà. Je suis fière de ce corps qui a réussi à supporter des traitements de cheval. Et tout ça, ça confère beaucoup de liberté. Parce qu'à partir du moment où on a une bonne estime de soi, on n'a plus besoin de faire en fonction des autres, en fait. Tout ça n'a vraiment plus aucune importance. Et puis, moi, j'ai été tellement entourée. J'ai été entourée de que ce soit ma famille, mes amis, je sais pas, mais j'avais 50 messages par jour, des visites, des cadeaux, des surprises, ils ont tous fait bloc, en fait, autour de moi. C'est un peu comme si j'ai une amie qui parlait de cette image et c'était vraiment ça. C'est un peu comme si j'étais le noyau et qu'eux, ils étaient tous les électrons autour, en fait. Quand on se rend compte de l'amour puissant que les autres ont pour nous, on ne peut plus jamais douter, en fait. Alors du coup, concrètement, dans ma vie, oui, ça a changé aussi des choses parce que déjà, je me suis vraiment ouverte à beaucoup plus de pratiques spirituelles, on va dire. En fait, ça a été une épreuve gravissime. Enfin, on peut pas dire que c'est rien. C'est vraiment très grave ce qui est arrivé. Mais à chaque fois, j'ai eu l'impression d'être bien accompagnée, bien guidée et que tout se faisait dans le bon timing. Donc, j'ai décidé notamment de me former au Reiki, puisque c'est une pratique qui m'a accompagnée. J'ai des amis, plus mon fils, qui se sont formés également au Reiki pour m'accompagner pendant ma greffe. Enfin, j'aime pas trop le terme médecine, parce que pour moi, le Reiki ne guérit pas. J'ai jamais considéré que c'était le magnétiseur ou tout ça qui allait me guérir. Je savais que les médecins étaient là pour me guérir. En revanche, ça accompagne énormément, notamment dans les effets secondaires. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout eu les effets secondaires que les médecins attendaient. Et à chaque fois, quand j'avais quelque chose, en 2-3 jours, ça se régularisait. Donc, contrairement à d'autres, j'ai beaucoup moins souffert, je pense. Donc, c'est plus une méthode énergétique qui va venir accompagner. Et moi, j'avais besoin d'être vraiment actrice de ma guérison. Et voilà, de me dire, les médecins, ils vont faire leur boulot. Mais moi aussi, j'ai un boulot à faire et ce boulot, c'est moi qui vais devoir aller chercher les ressources nécessaires, enfin, les outils, ce que je vais pouvoir utiliser pour, moi, me sentir mieux. Aujourd'hui, je travaille à mi-temps pour l'instant. Donc, comme je suis en école élémentaire, je travaille 2 jours par semaine. Et le reste du temps, ça me permet notamment d'être bénévole pour la Ligue contre le cancer, parce que ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, de rendre un peu une partie de ce qu'on m'a donné. Et donc, je fais de la prévention dans d'autres écoles primaires. Je fais des soins Reiki, du coup, puisque là, maintenant, je suis formée en niveau 3. Et puis, je me suis aussi formée aux fleurs de Bac. Et donc, j'accompagne plusieurs adolescents qui ressentent un certain mal-être, que ce soit à l'école, dans leur vie, avec ces fleurs de Bac. Aujourd'hui, je me sens complète, enfin entière, enfin surtout je me sens libre. Voilà, la partie de moi qui était un peu emprisonnée ne l'est plus. Je peux dire que quelles que soient les expériences que je rencontrerai dans ma vie, quel que soit ce qui se passera dans ma vie, je suis prête. J'ai l'impression en tout cas que je peux tout surmonter désormais. Et ça, c'est quand même important. D'ailleurs, il y a une citation vraiment que j'adore, que j'ai mise dans le livre, mais j'adore cette citation qui dit « Le diable m'a chuchoté à l'oreille, tu ne pourras pas traverser la tempête. » Je lui ai répondu « Je suis la tempête. » Et c'est exactement ça. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, peu importe l'événement dramatique auquel on va faire face, on a tous en nous ce pouvoir d'être acteur de ce qui se passe et pas victime. Donc aujourd'hui, je suis à 4 ans et demi post-greffe. Je ferai mon bilan des 5 ans au mois de mars. Mon donneur, je pense à lui quasiment tous les jours. Hein. C'est un peu idiot, mais là, par exemple, on était sur l'autoroute. J'ai vu une voiture anglaise à côté de moi. Je ne peux pas m'empêcher de me dire « et si c'était lui, mon donneur ?» Donc oui, bien sûr, la gratitude qu'on a pour cette personne qu'on connaîtra jamais, mais qui nous a permis de vivre, ça, je l'aurais à vie de toute façon. Et on a quand même la chance de pouvoir écrire à son donneur si on veut. Donc, moi, je lui ai déjà fait 2 courriers. Mais en tout cas, pour les 5 ans, bien sûr que je lui écrirai une lettre pour lui dire que tout va bien, grâce à lui. Cette épreuve, elle a tout changé dans ma vie parce qu'elle m'a donné l'apaisement que je n'avais pas avant. Elle m'a donné cette espèce d'harmonie de tout mon être, en fait. Cette espèce d'harmonie entre ce que je pense, ce que je suis, mon corps. C'est comme si tous les morceaux du puzzle s'étaient en fait imbriqués. Et c'est très, très bizarre à dire, mais si demain on me disait... Tu peux repartir en arrière et supprimer cette épreuve de ta vie qui a été douloureuse, physiquement, mentalement, etc. Je le ferai pas. Je le ferai pas parce que je serais même prête à revivre exactement les mêmes douleurs pour avoir cette liberté, cette gratitude, cette fraîcheur que je ressens aujourd'hui. Et qui, en plus, avec tout ce qu'il y a d'anxiogène en ce moment, me semble vraiment primordial.
Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé Les Rescapés ? Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.